Chemin de vie. Chers amis, c'est avec plaisir que nous commençons une nouvelle semaine avec vous. Vous êtes à l'écoute de Chemin de vie. Cette rubrique est diffusée chaque jour sur votre radio locale, du lundi au vendredi à cette même heure. Au micro, Heidi.
Ainsi que Jean et Daniel, à la technique. Autrefois, Paul et Barnabas avaient déjà visité l'église de Galatie. Mais que s'est-il passé depuis, Heidi ?
Depuis, les légalistes ont réussi à mélanger le vrai et le faux. L'apôtre doit donc sans cesse rectifier les points de vue. Et comme nous le dirions aujourd'hui, il doit remettre les pendules à l'heure. C'est Jacques Yosti qui nous explique cela après cette chanson de Pat Berning intitulée « Dans ta maison ».
Je demande de tout mon cœur te remercier et te louer, et devant les grands de ce monde te proclamer, te glorifier. Tu es Seigneur dans ta maison, chanter ton nom éternel.
Pour faire cuire un homard, c'est très simple. On le met vivant dans une casserole d'eau froide qu'on met sur le feu. Peu à peu, l'eau se réchauffe, l'animal s'engourdit et glisse dans l'autre monde sans s'apercevoir de rien, puis on passe à table. Le pauvre crustacé a été berné. Il existe bien des façons de tromper son prochain, mais la plus efficace est probablement de commencer avec un fond de vérité. C'était l'eau froide pour le homard, puis d'y ajouter l'erreur, la chaleur pour notre crustacé, tout doucement, afin de ne pas provoquer une levée de bouclier. Cette forme de tromperie était arrivée aux églises de la Galatie. Après le passage de l'apôtre Paul et de Barnabas, des légalistes étaient arrivés et avaient réussi à mélanger le faux au vrai. Ils étaient pour la foi en Jésus-Christ, mais ajoutaient qu'il fallait aussi obéir à la loi de Moïse, dont ils se disaient les porte-paroles. À cette nouvelle, Paul a réagi. Il a pris sa plume et écrit une lettre aux Galates, où il exprime sa stupéfaction devant leur comportement irrationnel. En effet, ils ont bien trop facilement accepté de se laisser abuser. L'apôtre explique que vouloir ajouter quoi que ce soit à la valeur du sacrifice du Christ, c'est le supplanter. Et c'est d'ailleurs l'essence de toutes les religions d'obédience chrétienne qui ont dérivé et fait naufrage par rapport au message originel de l'Évangile. En ajoutant des rites et des règles de conduite, elles ont rendu l'œuvre du Christ caduque. Il n'y a qu'une seule façon d'obtenir le salut, c'est en plaçant sa confiance en Jésus, plus rien d'autre. Après avoir cru à la bonne nouvelle du Christ, les Galates ont dévié de la foi en s'efforçant d'obéir aux préceptes de la loi de Moïse pour plaire à Dieu. Paul leur a demandé, « Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? » La réponse est évidente, c'est par la foi. Mais les légalistes appuyaient leur enseignement sur l'Ancien Testament et particulièrement sur les écrits de Moïse, évidemment. Alors, Paul ramène le débat bien des siècles en arrière en prenant comme exemple le père de la nation juive. Je continue à lire dans le chapitre 3. Or, il en a déjà été ainsi pour Abraham, car l'Écriture déclare à son sujet, il a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Verset 6. Comment Abraham a-t-il été déclaré juste par Dieu? La réponse se trouve dans le livre de la Genèse et c'est ce passage que l'apôtre Paul cite ici ainsi que dans une autre de ses épîtres. Le patriarche a été ainsi justifié dans la première partie de sa vie en tant que croyant. Il est l'illustration, l'archétype de celui qui obtient la justice par la foi. Il n'est évidemment pas possible de dire qu'Abraham fut déclaré juste en obéissant à la loi de Moïse puisqu'elle n'est venue que 4 siècles plus tard. On ne peut pas expliquer non plus qu'il fut agréé par Dieu parce qu'il pratiquait la circoncision, car ce n'est que bien plus tard que Dieu lui donnera ce rite comme signe d'alliance. Aujourd'hui, c'est le baptême qui est, pour les croyants adultes, un témoignage de leur foi. Cependant, ni la circoncision ni un bain d'eau n'a le pouvoir d'effacer des fautes et de procurer le salut. L'un et l'autre ne sont que des marques extérieures d'une réalité intérieure. Dieu a déclaré Abraham juste après une conversation avec lui, alors que le patriarche revenait d'avoir livré une bataille contre une confédération de 4 rois. Venu de la lointaine Mésopotamie, l'Irak actuel, ils avaient attaqué et vaincu 5 rois de Palestine parce que ces derniers refusaient de leur payer un tribut. Ces 4 rois retournaient donc chez eux chargés de butin. Cette affaire n'intéressait pas du tout Abraham jusqu'au moment où il apprend que son neveu Lot faisait partie des captifs. À cette nouvelle, son sang ne fit qu'un tour. Il rassembla et arma 318 de ses serviteurs, et avec 3 frères hittites avec qui il s'était allié, il partit à leur poursuite. Ils durent parcourir un chemin considérable car ils engagèrent le combat au nord de Damas. Au final, Abraham remporta une grande victoire et récupéra tout, y compris les captifs, sains et saufs. Selon la coutume de l'époque, il aurait dû empocher une partie du butin, mais il a refusé le moindre centime, disant « Je jure, à main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre, que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, toi, roi de Sodome, pas même un fil ou une courroie de souliers, pour que tu ne puisses pas dire « J'ai enrichi Abraham ». Fin de citation. C'est après ces événements que l'Éternel s'est adressé à lui dans une vision et lui a dit « Ne crains rien, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. » Fin de citation. Dieu confirmait au patriarche qu'il avait bien agi en refusant quoi que ce soit de la part de ces roitelets palestiniens qu'il avait secourus. Mais comme Abraham avait l'esprit très pratique, il a saisi cette occasion pour engager une discussion très franche avec Dieu. Il lui a dit « Éternel Dieu, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant et c'est Éliézer qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Fin de citation. C'est de cette manière que nous devrions prier. Le Seigneur du ciel et de la terre n'est pas intéressé par nos longues litanies récitées par devoir. Il désire que quand nous nous adressons à lui, ce soit pour nous l'occasion d'établir une relation avec lui en toute sincérité. Avant cet incident, Dieu avait déjà dit au patriarche que sa postérité serait aussi nombreuse que la poussière. Je cite le passage. L'Éternel dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. » Fin de citation. Dieu demande maintenant à Abraham de jeter un coup d'œil vers le ciel étoilé. Il paraît qu'en Palestine, on peut voir 5000 étoiles à l'œil nu. Avec un télescope de 40 cm de diamètre, on en distingue environ 50 000. En 1999, le télescope américain Hubble, qui gravite autour de notre planète, a découvert une galaxie située à 13 milliards d'années-lumière de la Terre. C'était alors la plus lointaine et la plus ancienne jamais découverte. Notre galaxie, dans laquelle se trouve le système solaire, s'appelle la Voie lactée et compterait quelques 150 milliards d'étoiles. J'ai lu récemment qu'en 2004, je crois, le télescope Hubble a percé un endroit du cosmos qui jusque-là était noir même au plus puissant télescope basé sur Terre. Pendant 10 jours, il a pris en exposition continue une photo d'une partie du ciel grand comme une pièce de 2 centimes d'euro à 23 mètres, c'est-à-dire un point minuscule. Le télescope Hubble a identifié plus de 1500 galaxies, pas des étoiles, mais des galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. La phrase suivante de l'article m'a laissé abasourdi. Je la lis. Ces galaxies émettent un rayonnement qui est, alors là, cramponnez-vous bien, 4 milliards de fois plus faible que ce qui peut être vu à l'œil nu. Fin de citation. Je suis tombé des nues. Abraham, lui, regardait la voûte étoilée de notre galaxie. Dieu lui a alors dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Fin de citation. C'est suite à cela que dans la Genèse, il est dit, « Abraham fit confiance à l'Éternel et, à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. » Fin de citation. C'est ce passage qui est cité par Paul. Le texte hébreu est très expressif. C'est comme si le patriarche avait répondu, « Amen, je te crois. » De la même manière que Dieu a donné à Abraham un moyen de devenir juste, il donne à vous et à moi ce même privilège. Il a envoyé Jésus pour naître parmi nous et subir le jugement divin à notre place. Je rappelle une fois encore ce fameux passage de l'Évangile qui explique si bien l'œuvre du Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Fin de citation. La question se pose, est-ce que, comme Abraham, je réponds « Amen, je te crois ». Tous ceux qui acceptent Jésus en tant que sauveur sont déclarés justes sur la base de leur foi. Comme vous et moi, le patriarche ancêtre des Juifs était très imparfait. Il a acquis le statut de juste, non à cause d'œuvres qu'il aurait pu faire, mais uniquement sur la base de sa foi. La conversation n'était pas terminée entre Abraham et Dieu. Ce dernier poursuit et lui dit, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Fin de citation. Mais comme j'ai déjà dit, Abraham avait l'esprit très pratique. Alors il se dit, « Attends voir, il y a quelque chose qui m'échappe. La Palestine est habitée d'un bout à l'autre par toutes sortes de peuplades. » Alors Abraham demande à l'Éternel, « Seigneur Dieu, comment aurais-je la certitude que je le posséderai ?» Fin de citation. Sur quoi Dieu lui répond, « Tu vas voir. On va mettre tout ça par écrit. » Si vous avez déjà lu la Genèse, vous dites peut-être, « Attendez une minute, j'ai jamais vu ça dans l'histoire. » Mais bien sûr que si. Je continue la conversation. Dieu lui dit, « Va chercher une génisse, une chèvre et un bélier, ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » Abraham alla prendre ces animaux, les coupa tous en deux par le milieu, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux, il disposa les deux moitiés face à face. Fin de citation. C'est de cette manière qu'à cette époque, et pendant des siècles, on établissait un contrat en bonne et due forme. Les deux parties coupaient un ou plusieurs animaux en deux. Ils mettaient les moitiés d'un côté et d'autre, se donnaient la main et passaient au milieu des carcasses. Ce rituel scellait le contrat encore mieux que s'ils s'étaient rendus au tribunal local devant un juge et engagé leur parole. Si l'une des parties ne respectait pas les termes de l'alliance, elle en subissait les conséquences. Je cite un passage dans lequel l'Éternel prononce une sentence de jugement contre les responsables du royaume de Juda. « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance entre les mains de leurs ennemis parce qu'ils n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. » Fin de citation. Abraham a donc préparé les animaux, puis attendu toute la journée que Dieu se manifeste. Mais ce dernier n'est venu que tard le soir. Je continue à lire en compressant le texte de la Genèse. Des oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham et en même temps, l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit « Je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Fin de citation. Dieu seul est passé entre les animaux découpés, ce qui veut dire que lui seul s'est engagé à garder cette alliance coûte que coûte, tandis qu'Abraham était dans le pays des rêves. Le rôle du patriarche s'est limité à croire la parole de Dieu. Si la validité de ce contrat avait dû dépendre de la fidélité du patriarche, les Israélites ne se seraient jamais installés en Palestine. De la même manière que l'Éternel a conclu une alliance avec Abraham, il s'est engagé envers nous. En effet, il y a presque 2000 ans, Jésus-Christ est mort pour payer le châtiment de nos fautes. Il a scellé une nouvelle alliance dans le sang de son Fils. Or, Dieu n'exige pas que nous prions ou soyons présents à l'église le dimanche pour nous donner la vie éternelle. Il me demande seulement de croire au Christ et à son œuvre sur la croix. Lui seul a rempli les termes du contrat et il tient ses promesses. Abraham a cru et il fut déclaré juste. Si je mets ma confiance en Jésus, je le serai pareillement. Je continue le texte de l'Épître aux Galates. Comprenez-le donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. Verset 7. Les légalistes étaient des juifs de la souche d'Abraham, mais en se confiant dans l'obéissance de la loi, ils s'excluaient des descendants spirituels du patriarche. En liant la confiance en Dieu manifestée dans le passé par Abraham à la foi présente des Galates qui avaient cru en Jésus-Christ, l'apôtre Paul assène un coup magistral aux faux prophètes. Que ce soit sous l'Ancienne Alliance ou sous la Nouvelle, l'homme accède au salut de la même manière, par la foi. Jésus attend que je l'accepte et le fasse entrer dans ma vie. Je cite un passage. « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Fin de citation. Je continue le texte des Galates. De plus, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. « Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. » Verset 8. L'Écriture est ici personnifiée, ce qui montre bien son origine divine. De toute éternité, Dieu avait résolu en lui-même que tous les hommes qui seraient justes le deviendraient par la foi sans bonnes actions. Ce principe est universel. Abraham et ses descendants spirituels, aussi bien les juifs que les païens, sont tous déclarés justes sur la base de leur foi. Pourtant, dans le Nouveau Testament, Jacques y ajoute bel et bien les œuvres puisqu'il écrit « Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Fin de citation. Jacques ne parle pas de la loi de Moïse qui ne viendra que bien plus tard, ni de suivre un système de règles, mais des bonnes œuvres engendrées par la foi. Jean Calvin l'a exprimé ainsi. La foi seule sauve, mais la foi qui sauve ne demeure pas seule. Fin de citation. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Une foi vraie, sincère et dynamique vient en premier et fait ses preuves en étant confirmée par une vie vertueuse. Jacques a donc raison de dire que sans être accompagné de bonnes œuvres, la foi est morte, c'est-à-dire inexistante. La révélation comme quoi la justice s'obtenait par la foi avait été donnée à Abraham deux fois. La première est celle que Paul a citée quand le patriarche a commencé à obéir à Dieu qui lui a dit que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles. Suite à quoi, le texte dit « Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. » Fin de citation. La deuxième fois se situe après l'incident où le patriarche avait offert son fils Isaac sur l'autel, prêt à le sacrifier, et Dieu l'avait arrêté. Le Nouveau Testament explique qu'Abraham avait alors suffisamment confiance en Dieu pour croire que l'Éternel allait ressusciter Isaac. À cette occasion, Dieu avait répondu à la foi d'Abraham disant « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis, tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. » Fin de citation. C'est ici la dernière fois que, selon les textes sacrés, Dieu est apparu à Abraham. Il semblerait que le patriarche ait alors entrevu l'œuvre de la croix, parce que l'offrande de son fils Isaac est l'illustration prophétie par excellence qui annonçait la rédemption grâce au sacrifice du Christ. C'est cette histoire que Jacques a utilisée pour prouver que la foi sans les bonnes œuvres est inexistante. Paul et lui disent tous deux la même chose. Le premier considère la foi à son début et le second à la fin. L'un regarde à la racine de la foi qui seule procure la justice et l'autre à ses fruits qui sont les bonnes œuvres d'une vie vertueuse. Je continue le texte. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, ont part à la bénédiction avec lui. Verset 9. Abraham est devenu une source de bénédiction pour toutes les nations parce qu'il est le père de tous les croyants, juifs et païens, qui comme lui sont déclarés justes par la foi. Aujourd'hui, on devient chrétien au vrai sens du terme, de la même manière qu'Abraham. Dieu lui avait dit qu'il allait agir en sa faveur et le patriarche y a cru. Il me demande à moi de croire qu'il a accompli le nécessaire pour mon salut en la personne de Jésus-Christ. Je peux rejeter le message de 101 manières différentes ou l'accepter par un acte de foi. Tel est l'enjeu à portée éternelle qui s'offre à vous et à moi.
Pardon pour mon indifférence envers toi, pour ne pas avoir écouté ta voix, qui me disait simplement je suis là. Ah, oui, pardon,
par ton sang, je suis libre et enfin purifié. Désormais, à jamais, je te glorifierai. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ, le seul nom par lequel nous avons la vie. Maintenant de joie tu nous as remplis. Oh, oui, merci de toujours écouter tes enfants. Sur chacun de ton regard s'étend. Tu nous aimes et nous gardes tous les jours à chaque instant. Sa vie, qui m'aurait sonné de lui, rendu libre. Maintenant, toi aussi, tu veux devenir enfant du roi. Accepte-le comme ton sauveur et la paix t'envahira. Que j'aime et qui me sont chers devient souvent le sujet de mes peines. Je te prie, Jésus-Christ, de leur ouvrir le ciel. Mais qui aurait sonné tes cris, donné sa vie? Maintenant, toi aussi, tu veux devenir enfant du roi. Accepte-le comme ton sauveur et la paix t'envahira. Mais qui aurait sonné tes cris, donné sa vie? Mais qui m'aurait sonné de lui, rendu libre? Maintenant, toi aussi, tu veux devenir enfant du roi. Accepte-le comme ton sauveur et la paix t'envahira.
Authentique, c'est le nom du groupe qui vient de chanter « Pardon ». Un tout petit mot, mais tellement riche de sens. Avant de nous quitter, nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette rubrique en vous connectant sur notre site internet chemindevie.info. Chemins au pluriel, le tout attaché. chemindevie.info.
Et pour recevoir gratuitement une Bible, sans engagement de votre part, appelez-nous au numéro suivant. 0820 200 628. C'est un numéro Indigo. 0820 200 628. À présent, nous laissons la place au programme suivant et nous vous disons donc à demain.
À demain.